sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Sur le pont des arts du mois d'avril, vous propose d'évoquer l'actualité des membres de l'Académie des Beaux-Arts et de prendre note des ouvertures aux concours et prix lancés par l'Académie des Beaux-Arts. Cette fois au programme, en plus de l'agenda de l'Académie et de l'actualité des académiciens, vous pourrez entendre dans cette émission deux interviews, l'une consacrée à l'exposition de la Fondation Giannada à Martigny avec Jean-Michel Bourg, et l'autre interview avec Mireille Roman, consacrée cette fois à l'actualité du salon du livre ancien, de l'estampe et du dessin qui se déroule à Paris en cette fin du mois d'avril. Les académiciens font donc l'actualité du côté de la gravure. Louis-René Berge, en effet, expose à la galerie Nabokov avec une artiste graveur, Catherine Gillet, dans le 1er arrondissement à Paris, entre le 2 et le 19 mai. À signaler également, mais cette fois du côté de la photographie, Lucien Clergue, mi-mai, donnera une conférence à Varsovie intitulée « 60 ans de photographie ». Du côté de la musique, Laurent Petit-Girard, le 18 mai, dirigera à Kiev son concerto pour violoncelle avec l'Orchestre National d'Ukraine et Serge Slovachevski. Et si vous êtes toujours et encore voyageur, vous pourrez découvrir une exposition de dessins récents de Vladimir Velikovic au Musée des Beaux-Arts de la Havane. Voilà pour nos internautes voyageurs. La période du printemps coïncide aussi avec l'ouverture des concours pour certains grands prix de l'Académie. C'est donc le cas du Grand Prix d'architecture qui est ouvert aux lauréats à partir du mardi 17 avril. La réception des dossiers s'effectue jusqu'au 25 mai 2012 inclus et pour tout renseignement sur le règlement et le sujet, ainsi que sur les bulletins d'inscription, tout est téléchargeable et consultable sur le site de l'Académie des Beaux-Arts. Le thème cette année du concours d'architecture est consacré à la maison, maison gardée. Quelques extraits de la page du sujet du concours. On peut la concevoir comme objet autonome, singulier, isolé ou bien destiné à être au contraire articulé à d'autres. Un peu plus loin, les candidats pourront entendre la leçon des philosophes, des sociologues, des psychanalystes, celle des phénoménologues, en particulier de Bachelard avec sa poétique de l'espace, comprise de la cave au grenier. Ils feront bien sûr ce qu'ils voudront de la fameuse assertion d'Adolf Loos que l'on trouve dans sa conférence « Architecture » de 1910 et à laquelle ils peuvent ne pas adhérer. De point, je cite, « L'œuvre d'art pense à l'avenir, la maison au présent. Nous aimons tous notre commodité, nous détestons celui qui nous arrache à notre commodité et vient troubler notre bien-être. C'est pourquoi nous aimons la maison et détestons l'art. Mais alors, la maison ne serait pas une œuvre d'art? L'architecture ne serait pas un art? Oui, c'est ainsi. Tout ce qui est utile, tout ce qui répond à un besoin, doit être retranché de l'art. » Voici donc ce à quoi les architectes de l'Académie des Beaux-Arts invitent à réfléchir cette année. Les lauréats du Grand Prix d'architecture ont jusqu'au vendredi 25 mai 2012 pour déposer leur dossier. Depuis le 17 avril 2012, le prix de la photographie a été ouvert. Le prix de photographie Marc Ladret de la Charrière Académie des Beaux-Arts récompense un photographe confirmé, auteur d'un projet photographique qui doit être réalisé dans l'année, suivant l'attribution du prix, et donc le sujet et le mode de traitement sont libres. Le vendredi 29 juin 2012 marque la clôture des candidatures. Autre prix, cette fois le prix du Cercle Monterland Académie des Beaux-Arts, qui existe pour la 10e année consécutive, et qui organise un prix qui récompense cette fois l'auteur d'un ouvrage de langue française, illustré, et consacré à l'art. Peuvent ainsi concourir au prix les ouvrages parus depuis le 1er juillet 2011. Le prix est ouvert depuis le 14 mars et les candidatures seront closes à la date du 15 juin 2012. L'Académie des Beaux-Arts a une section d'associés étrangers dont on parle peu. Elle compte 16 membres, parmi lesquels des noms très prestigieux, des architectes comme Yo-Ming Pei, Norman Foster, des cinéastes, par exemple Woody Allen, parmi ses personnalités, Leonard Gianada, ingénieur de formation, devenu un grand défenseur des arts, de tous les arts, en lançant sa fondation en Suisse. Sa passion pour l'art et son mécénat culturel l'ont conduit à créer un des plus hauts lieux culturels et artistiques de Suisse, la Fondation Pierre Gianada, du nom de son frère disparu. La Fondation a accueilli depuis son ouverture plus de 6 millions de visiteurs. Le Musée national d'art moderne du Centre Pompidou est l'invité de la Fondation Gianada, située à Martigny en Suisse, autour d'une exposition consacrée au thème du portrait. Des œuvres majeures de sa collection sont ainsi prêtées, à la suite du Musée Pushkin ou du Metropolitan Museum de New York, lors d'expositions précédentes. Le musée présente une magnifique exposition de portraits et d'autoportraits issus donc des collections du Centre Pompidou à Paris, et c'est à voir du 2 mars au 24 juin 2012. L'exposition s'accompagne d'un catalogue intitulé « Portraits, collection du Centre Pompidou » qui est édité par la Fondation Gianada. Et l'exposition terminée, vous pourrez toujours retrouver ce livre, bien sûr, avec une préface de Jean Clerc, intitulé « Sur le visage de l'homme », dont voici un court extrait. Jean Clerc écrit « Je ne raconterai pas l'histoire de la disparition progressive du portrait en peinture. Je l'ai racontée ailleurs. Mais au XXe siècle, il semble que le portrait a bien disparu. La photo a pris sa place, mais ce n'est pas la photo qui a été la cause de la disparition du portrait peint. C'est parce que le portrait peint a disparu que la photo a pu, à partir de 1835 environ, si aisément prendre sa place. » Un peu plus loin, il écrit, à propos du visage, que c'est risqué là un mot difficile, et encore un petit peu plus loin, il ajoute, « Dans l'autoportrait, c'est le peintre lui-même qui se regarde, dira-t-on. Cela ne regarde que lui. Pas tout à fait, pourtant, dès le moment où l'œuvre devient publique, a été faite pour devenir publique, car il n'existe pas d'œuvre secrète et encore moins destinée à le demeurer. Tout, un jour, vient au grand jour. » Mais pour l'heure, retrouvons Jean-Michel Bourg, conservateur au Centre Pompidou et commissaire de cette exposition. Bonjour Jean-Michel Bourg.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler de l'exposition qui a actuellement lieu à la Fondation Pierre Gianada, en Suisse, à Marigny, intitulée « Portraits, collection du Centre Pompidou ». Merci d'être avec nous. Vous êtes donc conservateur au Centre Georges Pompidou et vous êtes donc la personne qui a conçu cette exposition et vous connaissez très bien les collections du musée. Comment est née l'idée de cette exposition sur le portrait, sur un thème qu'on pourrait penser archi-classique ?
C'est précisément parce qu'il semblait tellement académique, puisqu'il était, comme vous le savez, c'est un genre issu de l'académie, qu'à un moment donné, on s'est posé la question finalement, c'était peut-être le genre qui avait été le plus bouleversé par le XXe siècle. Et que nous possédions dans nos collections suffisamment d'exemples absolument emblématiques, très forts, qui permettrait en fait de constituer un fil conducteur pour une exposition. Donc voilà comment est né ce projet.
Quelle définition donneriez-vous, vous, de l'art du portrait ?
L'art du portrait, c'est tout simplement, il y a une étymologie qui est trait pour trait. Hein. Portrait vient de cela, c'est-à-dire de tenter de reproduire au plus près possible la figure humaine de façon à pouvoir tirer le portrait de quelqu'un. Dans la mythologie, Pline l'Ancien nous raconte une séquence du potier d'Iboutanès dont la fille était éperdument amoureuse d'un jeune homme qui devait la quitter Et avant que celui-ci ne parte, elle dessine sur le mur l'ombre portée de son amant pour en garder une trace. C'est, nous dit Pline, l'origine du dessin, l'origine de la peinture. Donc d'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'origine de la peinture, finalement, est dans le portrait,
Pas
dans un autre genre. Alors c'est un genre, évidemment, qui a beaucoup évolué. Il y a eu différentes périodes. Il y a eu la période médiévale avec les blasons et les effigies. Et puis, la période classique, bien sûr, et la période, disons, moderne qui commence à peu près au milieu du 19e siècle et qui est concomitante de l'avènement de la photographie, qui est évidemment un événement majeur, notamment dans le domaine du portrait, puisque d'emblée, la photographie va se poser en substitut de la peinture, puisqu'elle permet de dresser un portrait qui soit le plus objectif possible.
Et là, aux surprises, justement, les artistes
et les
poursuivent
artistes,
ce genre
voilà,
et réinventent...
Les artistes n'abandonnent pas du tout le genre
du portrait.
Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, mais au contraire, vont le réinvestir différemment et surtout sans les contraintes du passé, qui étaient les contraintes du commanditaire. C'est-à-dire que le portrait, généralement, avait un commanditaire. Et ce commanditaire, évidemment, avait imposé, d'une certaine manière, la ressemblance et des intentions. Alors, elle pouvait imposer, évidemment, des marques de sociabilité, des marques de rang dans la société, ou des critères, disons, de coquetterie. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait, évidemment, rendre le portrait plutôt favorable au sujet. Évidemment, de tout cela, les peintres vont être libérés à partir de la seconde moitié du 19e et principalement au 20e.
Donc de cette liberté nouvelle, de cet affranchissement, ils réinvestissent le genre à travers tous les grands courants de la peinture moderne. Aucun courant n'échappe au portrait, j'allais dire.
Si, bien sûr, il y a des courants de la modernité.
L'abstrait,
le monochrome, c'est comme très extrêmement difficile d'y voir des portraits, ou le minimalisme, où il y a évidemment des courants qui sont particulièrement très loin de la question de la subjectivité, et qui donc... sont loin aussi de la question du portrait. Mais néanmoins, les plus grands courants, que ce soit l'abstraction orphique, que ce soit le dada, le surréalisme, que le cubisme bien sûr, tous ces mouvements, le futurisme, tous ces mouvements ont revisité le genre du portrait et y ont apporté leur pierre.
Comment avez-vous choisi la soixantaine de tableaux présentés ? Quel est-il, s'il y a eu un fil conducteur ou...
Oui, il y a eu un fil conducteur, qui est le fil d'ailleurs conducteur de l'exposition, c'est-à-dire la définition d'un certain nombre de sections, d'approches thématiques du portrait, puisque le propos de l'exposition n'était pas de tirer une exposition exhaustive sur la question du portrait au XXe siècle, mais de traiter tout simplement la question du portrait au travers d'exemples pris dans la collection du musée. Donc c'est évidemment une approche complètement différente. Autrement dit, la méthodologie, elle est entre le choix de pièces qu'on estime exceptionnelles,
oui,
et ensuite leur analyse et leur classement d'une certaine manière dans des axes thématiques, ce que révèle l'exposition qui est à Martigny.
Alors vous l'avez conçue en cinq grands thèmes.
Cinq grands thèmes, oui.
Les mystères de l'âme, les autoportraits.
Oui, bien sûr.
Le visage à l'épreuve du formalisme et chaos et désordre ou l'impossible permanence de l'être. Et le dernier, après la photographie.
Oui.
Parce que là, c'est encore autre chose. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous êtes un spécialiste du cinéma.
Oui, à l'origine, oui.
Du cinéma d'avant-garde. Ce début du XXe siècle, on se pose la question aussi, vous évoquiez la photographie, mais de l'introduction et du développement de l'image et du cinéma.
Bien sûr, et en particulier
sur
du
le
cinéma.
Portrait, quelle est l'incidence ou est-ce que ça contribue
à
renouveler justement
oui.
cet art
le
du portrait.
Le cinéma, évidemment, impacte de manière très très forte la représentation dans le tableau, dans la peinture, notamment avec l'impact du gros plan au cinéma, qui va être comme une chose majeure, hein, et que certains artistes vont essayer de reproduire, donc avec un changement d'échelle même du modèle, par rapport à celui qui regarde le tableau. Il y a évidemment la question, qui est la question du mouvement qu'a fait naître le cinéma et que des mouvements comme le futurisme vont évidemment reprendre. Il y a par exemple un tableau de Severini dans l'exposition qui est justement cette mise en mouvement, cette cinétisation de la figure humaine au travers de positions successives dans l'espace. Donc évidemment, oui, le cinéma a eu un impact majeur sur la peinture en général et qui touche également le portrait. La première section de l'exposition s'appelle « Les mystères d'une âme », qui est un titre emprunté d'un film de Pabst, hein, qui était un expressionniste allemand des années 20, et qui, c'était un film finalement sur la thématique de la psychanalyse.
Oui.
Or, évidemment, la psychanalyse, Et la divulgation de la psychanalyse a un impact auprès des artistes, et notamment a un impact dans le champ du portrait, puisque soudain, on se rend compte que la figure humaine, finalement, qui est à la fois cette chose, ce que l'on montre le plus, c'est-à-dire que c'est la seule partie du corps que l'on ne cache pas dans la sociabilité, dans la rue, et en même temps, c'est évidemment la partie du corps la plus mystérieuse, celle qui, c'est aussi une sorte de masque, qui peut devenir un masque en tout cas, et derrière lequel, évidemment, se met en réserve toute la partie inconsciente de l'individu. Et l'éclosion, enfin, ou la divulgation plutôt de la psychanalyse, fait que, soudain, on se pose cette question de la représentation même de l'inconscient au travers des signes extérieurs. Quel visage ? Et il y a eu évidemment des antécédents qui sont des antécédents plutôt pseudo-scientifiques, comme ce qu'on appelait la physiognomonie, ou également les études de recherche des caractères secrets des individus, c'est-à-dire notamment par ceux qui travaillaient avec la police judiciaire. Hein, donc, oui. Comment repérer un individu suspect finalement au travers de sa physionomie ? Tout ça sont évidemment des choses qui vont tomber, qui vont s'avérer complètement absurdes, mais il y a eu, à un moment donné, ces tentatives, justement, de repérer dans le visage des traits qui sont des traits de l'inconscient, ou en tout cas du moi profond.
Donc on est passé du miroir de l'âme au mystère de l'âme, avec
de l'âme.
L'entrée de la psychanalyse dans les sociétés du XXe siècle. À vos yeux, dans l'exposition, quel tableau illustrerait le mieux ce propos ?
Le fauvisme qui a donc mis en avant à partir de 1905 la couleur pure, des expressions du visage qui sont très maquillées, dont les traits sont très fortement forcés, avec des cernes très importants, des orbites oculaires souvent très noires, a favorisé d'une certaine manière cette transgression finalement de la beauté classique, de notre héritage de la culture grecque et donc de la beauté classique, pour une beauté évidemment beaucoup plus trouble, hein, plus moderne d'une certaine manière, plus ambivalente.
Plus ambiguë, hein, plus ambivalente, bien sûr.
Plus ambivalente, plus ambiguë, qui est la beauté de la mise en scène même du corps humain. Alors, ça nous ramène aussi du côté du masque, qui là remonte à une tradition plus ancienne, où le masque est justement une sorte de stylisation, de représentation finalement, derrière lequel va se cacher un individu.
Et une réinterprétation du visage.
Une réinterprétation,
ou même tout simplement
une signification, finalement, un élément de langage derrière lequel le moi se cache.
Est-ce qu'on évoque tout de suite ce tableau,
oui.
Ou
alors,
peut-être
un autre tableau
emblématique de l'exposition,
qui n'est pas fauve mais expressionniste, c'est quand même un mouvement extrêmement voisin de la même période, qui est le tableau de Javlinsky, qui s'appelle La Byzantine, qui est un tableau où là aussi on voit qu'il y a une schématisation des traits du visage, que ceux-ci sont presque géométriques, c'est-à-dire par exemple les yeux en amande sont quasiment en losange, que le nez est une ligne droite. Donc on voit que l'on va vers une sorte de purification du visage, vers un langage qui devient un langage quasi formel. Et pour autant, et d'ailleurs cette relation au formel chez Javlinsky est illustrée par le fait qu'il a fait toute une série de ses portraits sur des femmes de diverses origines. Là, il s'agit d'une Byzantine, il a fait une Espagnole, etc. Et en fait, ce sont presque des archétypes féminins, puisqu'on retrouve, au travers de ces différenciations ethnologiques, on retrouve finalement toujours une sorte de visage universel.
Ce qui est surprenant aussi, c'est ce trait de couleur qui entoure la figure,
qui est un aura,
le cou et le début des épaules. Vous parliez d'une Byzantine en plus.
Oui, absolument. Donc il y a évidemment un lien très fort avec les icônes. Ça, Javlinsky était très influencé par les icônes, donc on voit bien que ce visage qui est très cerné de noir sur un fond noir est en fait auréolé, une sorte d'auréole, d'aura finalement, qui l'entoure et qui lui donne un côté à la fois mystérieux et sensuel.
Exactement. L'œil non exercé ou qui découvre le tableau n'assimile pas ça forcément une aura, c'est en voyant les autres tableaux qu'on peut découvrir ça.
Et alors, cette fois une considération strictement plastique, c'est-à-dire que Javlinsky, qui travaille avec presque des couleurs pures, des plages de couleurs comme ça très, très fortes, et des contrastes très, très marqués, finalement, et sans aucune modulation d'ombre ou de demi-teinte ou autre, et pour autant, ce portrait est très bien traité dans sa volumétrie, c'est-à-dire qu'il y a de la profondeur, c'est pas un aplat, c'est pas du tout quelque chose qui est parfaitement plat, c'est quelque chose qui prend du volume, qui prend une présence absolument extraordinaire. Et évidemment, le cerne bleu autour y est pour beaucoup.
C'est un très très beau tableau. Il y a dans le thème de l'autoportrait présenté dans l'exposition une toile alors énigmatique, celle de Quirico, qui est absolument fantastique. Une toile donc de 1919 qui s'appelle, qui est le portrait de l'artiste avec sa mère, avec la mère, hein, si on le dit en italien, Ritratto dell'artista con la madre, qui est très très surprenant. Vous allez peut-être nous en parler mieux que moi. Comment le décririez-vous, cet autoportrait qui déjà a deux personnes?
Voilà.
Et ça rejoint aussi la psychanalyse du début, peut-être, en fait, sans en vouloir faire de la psychanalyse de cuisine.
Évidemment, il est tout à fait atypique, cet autoportrait, puisque ce qui est annoncé comme un autoportrait est en fait au premier plan, qui est quand même le plan principal, un portrait de sa mère. Premier élément. Donc, et effectivement, sa mère pose devant le portrait de son fils. Donc, c'est le portrait du fils dans le décor de la mère qui devient un autoportrait. Donc, il y a une sorte de renversement entre ce qu'annonce le titre et, évidemment, comment est la construction du tableau lui-même. C'est le premier élément.
Il est fascinant, ce tableau.
Alors, il est fascinant. Il met en scène, en même temps, un dispositif qui est précisément celui de l'autoportrait. C'est-à-dire qu'un artiste exécute un autoportrait en regardant son image spéculaire. Donc, on a le sentiment, là, finalement...
D'un miroir.
Et pourquoi a-t-on le sentiment d'un miroir? Parce qu'il y a, entre la mère et l'image du fils, une ressemblance, mais absolument si forte, tellement troublante que la mère semble un homme,
exact.
Qui fait qu'on a le sentiment que, finalement, l'autoportrait, c'est l'image spéculaire de la mère. Voilà. C'est vraiment toute une... Évidemment, on peut y voir une sorte de représentation de l'Œdipe, on peut y voir beaucoup de choses, hein, comme vous le disiez, mais c'est, en tout cas, du point de vue de la construction, c'est une œuvre tout à fait exemplaire.
Et qui rappelle à la fois, j'allais dire, alors je ne suis pas spécialiste, hein, mais les tableaux, les portraits de la Renaissance,
absolument,
très classiques, hein, dans leur schéma, la position, les trois quarts, les mains, enfin vraiment, on a l'impression que c'est ça. Il est d'une totale modernité, évidemment, et alors il est d'autant plus surprenant pour les gens comme moi qui l'ignoraient, que De Quirico avait fait des portraits, des autoportraits, une peinture comme celle-là, puisque j'avais, moi, en mémoire, la peinture un peu métaphysique de ce peintre,
oui.
qui est très éloignée de cette patte, j'allais dire, de cette façon de peindre. C'est un tableau qui a marqué l'histoire ou l'œuvre de Quirico.
Absolument. Et d'ailleurs, on a reproduit au catalogue un autre portrait de l'artiste avec sa mère, où on n'a pas du tout...
La même.
Plus classique,
voilà.
Où on a tout simplement la mère et le fils qui se font face, et d'ailleurs où on n'a pas cet effet de mimétique qui rend la chose si troublante, la ressemblance, j'allais dire, traditionnelle que peut avoir un père ou une mère avec son fils.
Et là, on retrouve un peu plus, même presque les couleurs de la peinture habituelle de Quirico, je trouve.
Oui.
Alors les bleus, les verts,
oui, absolument.
Alors que l'autre est vraiment...
L'autre est beaucoup plus sombre, il est plus entouré de mystère.
Un autoportrait. Qui garde aussi sa part de mystère. Parmi les œuvres présentées, il y a aussi quelques sculptures.
Alors, il y a effectivement toute une série de sculptures qui sont, à l'exception de deux, c'est-à-dire notamment celle de Giacometti qui est dans le grand espace central, et celle de Fautrier. Sinon, toutes les autres sculptures sont dans la section 3, qui est celle de la question du formalisme.
Le visage
à l'épreuve du formalisme. Donc elles sont toutes présentées dans une salle, ensemble. Alors elles retracent évidemment, ça va de Brancusi jusqu'à...
La muse endormie
de Brancusi, bien sûr, ce Calder. Et puis tout ça est mis en regard, par exemple avec la peinture. Il a quand même la peinture cubiste, un tableau de Picasso et un tableau de Gris, entre autres.
Alors parmi les collections du musée d'art moderne du Centre Pompidou, il y a un masque de Calder qui est en fil de fer. Qui s'appelle Masque de 1929, qui est un don de l'artiste.
C'est un portrait non attribué, on ne sait pas finalement qui le représente.
Oui.
Calder en fait a fait toute une série de ses portraits dans ses années parisiennes, donc avec du fil de fer. Il est présenté donc avec les autres sculptures, il est évidemment dans un dispositif différent puisqu'il est au-dessus, il plane au-dessus comme ça, comme une sorte
suspendu.
De chose suspendue, irréelle. Suspendue parce que tout simplement c'est un portrait sans poids, sans matière. C'est précisément
dans le vide et le...
Voilà, c'est presque de l'antimatière, c'est-à-dire que c'est l'inverse de la sculpture qui est précisément une matière à partir de laquelle on a tiré une forme. Et là, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est une forme qui est presque autonome, qui est même, c'est un trait autonome avec du fil de fer, et qui retrace une volumétrie, c'est-à-dire qui a cette magie d'être capable de reconstituer, par le vide finalement, la volumétrie d'une tête. Donc cette pièce, alors il y a toute cette magie de ces masques, puisqu'en fait, quand vous les éclairez, vous créez une ombre, et cette ombre est elle-même un dessin sur le mur. Et ça nous ramène à Dipoutade, de la mythologie dont je parlais tout à l'heure, et de cette séquence de la jeune fille qui, donc, à partir de cette bougie, va retracer, redessiner sur le mur la silhouette de son être aimé.
Calder avait donc présent à l'esprit tout ça quand il a fait cette œuvre.
Je ne sais pas. Mais en tout cas,
c'est magique.
Non, je crois qu'en tout cas, ce qu'il avait à l'esprit, c'était de dépasser complètement les contraintes de la sculpture, qui est celle de la matière.
J'allais dire, les canons de la beauté ont bougé. Tous ces portraits sont, on veut dire, très beaux, mais la notion de beauté a un sens nouveau avec.
Oui,
de cette exposition,
ils sont
c'est
très
ce
beaux
qu'on
et
peut
je
comprendre
crois que
de l'évolution de la peinture
et
au XXe siècle.
Et quand on est à la Fondation Giannada et qu'on est justement dans l'espace, quand on entre dans le bâtiment, c'est un espace qui est comme une sorte de galerie finalement, on est au milieu de cette galerie et que l'on voit donc cette galerie de portraits, on est évidemment extrêmement ému et touché par tous ces regards qui convergent vers vous, visiteurs. Et ces regards qui sont à la fois émouvants, qui sont à la fois profonds, qui sont à la fois quelquefois aussi douloureux, c'est-à-dire que pour certains, il y a de la douleur dans le visage.
Ah oui.
Et peut-être que c'est une caractéristique du XXe siècle, c'est d'avoir introduit...
Le groom de Soutine, quand même.
Par exemple, c'est d'avoir introduit justement la douleur, c'est-à-dire le poids des événements, le poids de l'histoire, les souffrances...
La sculpture de Fautrier est vraiment
bien
exemplaire.
Bien sûr, celle de Fautrier, celle de Buckle, celle de Baslitz, celle de Bacon, bien sûr, sont des représentations de visages qui ont souffert. J'ai un peu envie de dire que c'est le poids de l'histoire, c'est-à-dire que c'est le poids de l'histoire du XXe siècle qui a quand même été particulièrement tragique. Il ne faut pas oublier les fameuses gueules cassées de la Première Guerre mondiale.
Bien sûr, visage, on n'imagine pas, mais complètement défiguré. Et la chirurgie esthétique n'existait pas.
N'existait pas, et donc il y a eu toute une génération de gens qui ont souffert dans leur chair.
Gueules cassées avaient vraiment...
Les fameuses gueules cassées. Enfin, peut-être c'est une chose qu'on a oubliée. Et puis évidemment, le deuxième conflit mondial qui lui aussi a été extrêmement violent dans l'impact sur le corps et sur le visage.
De tous ces portraits et ces autoportraits, Jean-Michel Bourg, que vous connaissiez dans les collections, est-ce qu'il y en a un que vous avez vu d'un regard neuf en les mettant comme ça, en relation les uns avec les autres ?
Il n'y en a pas un que j'ai vu d'un regard neuf, j'ai tous vu d'un regard neuf. Parce qu'évidemment, une partie de ces portraits était dans les salles du Centre Pompidou, donc moi, comme n'importe quel visiteur, a pu les voir dans les collections du Centre. Mais dès lors que vous les sortez finalement d'un contexte, que vous les mettez selon des critères qui ne sont pas les critères au Centre Pompidou, les collections sont souvent sur un critère chronologique, donc, ce qui est tout à fait normal. Donc là, je sors évidemment complètement des critères chronologiques, puisque, comme je l'ai expliqué, ce sont plutôt des sections thématiques. Et dans ces sections thématiques, on peut très bien avoir Bacon à côté de Baslitz et à côté de Buckle et Severini. Donc on voit qu'on traverse comme ça, sans y prendre garde, on traverse tout le XXe siècle, en tout cas une grande partie du XXe siècle. Donc autrement dit, on leur fait dire autre chose et on les voit différemment. Et c'était frappant pour moi, justement, de faire dire aussi autre chose à toutes ces peintures.
Et cette autre chose, c'était...
C'était de dire, finalement, malgré tout, c'est-à-dire malgré ce que l'on a dit au début, c'est-à-dire l'invention de la photographie, malgré la modernité, malgré l'histoire ensuite, qui était aussi sacrilège vis-à-vis du visage humain, malgré le formalisme aussi, qui, d'une certaine manière, cherchait à être anti-naturaliste. Et même dans l'antinaturalisme le plus poussé, certaines sculptures sont très parlantes pour ça. Elles sont à la limite de l'abstraction, c'est quelques plans, quelques rondes bosses. Et d'emblée, on a cette sensation d'avoir ce visage en face de vous qui vous regarde. J'ai un peu le sentiment que c'est une éternité le visage, c'est-à-dire que c'est une chose qui résiste à tous les grands bouleversements.
Alors, chers auditeurs, j'espère que vous aurez compris qu'il faut vite se rendre à la Fondation Pierre Giannada pour voir cette magnifique exposition. Que les propos de Jean-Michel Bourg vous auront invité à vous lancer dans l'expérience d'une plongée dans le visage, puisque c'est ainsi d'ailleurs qu'il a préfacé le catalogue et ne l'a pas dit, et ça s'appelle Plongée dans le visage.
Plongée dans le visage.
Merci.
Merci à vous.
À la fin du mois d'avril se tient au Grand Palais à Paris le Salon international du livre ancien, des estampes et du dessin. Je vous propose de retrouver Mireille Roman, nous présenter ce salon très original et qui s'est imposé au fil des ans comme un rendez-vous incontournable des amateurs de bibliophilie, d'estampes et de dessins au niveau international. Mireille Roman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la chambre syndicale de l'estampe, du dessin et du tableau. Et à ce titre, vous organisez le Salon international de l'estampe et du dessin qui se tient à Paris à la fin du mois d'avril au Grand Palais, très exactement, le 27, le 28 et le 29 avril. Depuis 2007, ce salon justement se déroule au sein du Grand Palais. Il est bien plus ancien et il partage la magnifique nef du Grand Palais avec le Salon du Livre Ancien. Le succès de ce salon de rang international se confirme d'année en année et place Paris comme une capitale incontournable dans le domaine du dessin et de l'estampe, d'autant que la capitale voit également en mars un public toujours plus nombreux autour de l'actualité du dessin avec les deux salons qui se tiennent régulièrement en mars au Palais de la Bourse pour le Salon international du dessin et au Louvre avec Drawing Now pour le dessin contemporain. Alors comment se situe justement le Salon international du livre ancien, de l'estampe et du dessin qui se tient au Grand Palais parmi ces manifestations culturelles ?
C'est un salon que nous avons créé au Grand Palais avec nos confrères du syndicat de la librairie ancienne et moderne. Il nous a été possible à partir de 2008 de louer ce très beau lieu, très central et tout à fait exceptionnel, avec une volonté conjointe de deux syndicats de pouvoir avoir la possibilité d'offrir ce lieu à ses exposants et à ses visiteurs. C'est un lieu certes magnifique, très bien placé, mais aussi extrêmement cher à louer malheureusement, et très grand et très important à remplir. C'est de cette idée qu'est né ce mariage avec nos confrères de la librairie, sachant que nos domaines se croisent et se ressemblent et s'assemblent souvent.
L'estampe, le dessin et la bibliophilie.
Voilà, de nombreux livres sont illustrés depuis l'origine du livre et l'estampe sert d'illustration parfois de livres depuis l'origine de l'estampe. Et ce sont donc deux activités qui se complètent merveilleusement. Le dessin a été adjoint à ce salon depuis 2 ans maintenant. C'est la 3e année que certains confrères spécialistes en dessin ancien et contemporain nous rejoignent, de manière à pouvoir continuer cette belle aventure qui est extrêmement délicate dans la mesure où les marchands d'estampes très partants pour l'exercice qui est cher et difficile ne sont pas très très nombreux, hélas.
Mireille Roman, le salon est donc à la fois, si on comprend bien, une foire commerciale et aussi un véritable lieu d'initiation de la bibliophilie et aussi un lieu d'initiation à l'estampe pour le grand public parce que sont réunies là des pièces exceptionnelles à la fois par les galeristes, les libraires et puis aussi il y a des expositions, il y a des points forts durant les 3 jours de ce salon. C'est d'ailleurs une ambiance un peu feutrée, un peu différente des ambiances habituelles des salons du Grand Palais. Combien de visiteurs sont venus vous voir l'an dernier ?
L'an dernier, 40 000 visiteurs, ce qui était un très beau score. C'est un salon qui intéresse un public de plus en plus nombreux, qui est un public extrêmement varié, ce à quoi nous tenons énormément. C'est un public de toutes sortes et de tous âges, ce qui est pour nous un grand succès.
Il y a un invité d'honneur chaque année. Quel est donc cet invité pour l'année 2012 ?
Alors, en ce qui concerne les libraires, leur invité est cette année la Bibliothèque du Barreau de Paris, qui a une fort belle collection de livres, évidemment, mais aussi d'estampes. Quant à notre invité, c'est depuis l'origine, et avec un soutien qui ne s'est jamais démenti, la Bibliothèque nationale de France, qui chaque année nous propose une très belle exposition avec un thème, qui est cette année le thème de la gastronomie, ce qui est tout à fait formidable, très fédérateur et très joyeux.
Donc là, c'est le département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale qui fait une sélection dans ses meilleurs cartons, on va dire, pour le grand public. On peut peut-être s'arrêter quelques minutes sur justement quelques-unes de ces magnifiques estampes sélectionnées par la BNF. Vous connaissez déjà les œuvres qui seront présentées ? Quels trésors seront sous nos yeux ?
ce qui est très représenté ici par ces trois images, qui sont respectivement une estampe d'Abraham Bosse, qui date de 1633, une estampe de Gustave Doré, qui date de 1873, et une estampe de 1900, qui est également une affiche, les affiches étant des estampes lorsqu'elles sont imprimées selon les techniques de l'estampe, c'est-à-dire en la matière, la plupart du temps en lithographie.
Vous nous avez dit que le barreau de Paris était aussi l'invité du salon, et les collections du barreau de Paris sont aussi exceptionnelles, très riches en autographes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir justement de ces trésors ? Parce qu'il y a à la fois des autographes, des lettres, des incunables, des livres du XVe siècle, et on ignore la richesse de ces collections, et ça va être l'occasion d'abord de les découvrir, mais tout simplement de porter à la connaissance du grand public un patrimoine pratiquement jamais montré.
Oui, en effet, la bibliothèque du barreau de Paris est fort riche, collection est fort belle, mais n'en fait pas souvent état. Le thème choisi pour leur exposition est le thème de la justice, ce qui est évidemment va de soi. Et pour illustrer ce propos, ils ont choisi de nous montrer différentes images, toutes reliées à la justice, avec des livres absolument extraordinaires, des extraits de procès célèbres, évidemment des images de Daumier, qui est extrêmement connu pour avoir très souvent représenté et caricaturé les gens de justice. Et je pense qu'il s'agira d'une exposition tout à fait passionnante et intéressante à découvrir.
Mireille Roman, le salon accueille à peu près 50 galeries, c'est ce qui est annoncé, qui viennent du monde entier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'engouement des galeristes pour ce salon ? Qu'est-ce que ça représente pour eux ? C'est un moment fort dans l'année pour eux ? Et qu'est-ce qu'ils vont exposer justement et porter à la connaissance du public ?
Alors, ce qui est passionnant pour le visiteur, mais aussi pour les galeristes qui participent à cet exercice, c'est justement sa grande diversité. C'est justement de pouvoir se rassembler autour d'une même très belle spécialité qui est l'estampe, et aussi le dessin évidemment, mais c'est surtout quand même un salon d'estampe, j'y tiens beaucoup. C'est justement de pouvoir se confronter à travers les siècles et à travers nos différences et nos spécialités très différentes les unes des autres, bien que nous tenions à ce très bel exercice très fragile et très enthousiasmant qu'est l'estampe.
Donc les galeristes proposent aux visiteurs des choix d'estampes et de dessins qui sont un petit peu... Alors je ne sais pas si ça sera comme ça cette année, mais l'an dernier c'était vraiment comme si on rentrait dans une galerie par rapport à l'accrochage habituel dans la nef du Grand Palais. Il y avait vraiment un effort de personnalisation, j'allais dire, de chaque galerie. On sentait vraiment l'identité des uns et des autres. Il y a des galeries qui n'avaient jamais participé qui viennent cette année ?
Oui, quelques galeries qui n'ont pas participé les années précédentes nous rejoignent cette année et nous serons très contents de les découvrir.
Parmi les estampes que le public pourra voir, il y a à la fois des estampes très anciennes, classiques, ça va de Goya à Dürer, et puis on a aussi des pièces beaucoup plus modernes, de Delacroix à Basliste, et également avec des affiches et des estampes. Donc le salon respecte vraiment la diversité pour le public, pour vraiment augmenter l'offre.
Le salon tient beaucoup, beaucoup à sa diversité, mais aussi facilité justement par cette idée de diversité, son accessibilité. Ça, nous y tenons énormément. Nous tenons vraiment à faire participer à l'achat et à la collection un public plus nombreux et peut-être plus jeune, et donc moins fortuné que nos clients traditionnels. Et il est très 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 important justement de montrer à ce public nouveau et peut-être complètement découvreur d'une discipline qui n'est pas très très montrée en France par l'institution dans des endroits extrêmement fréquentés, une matière merveilleuse dont les prix restent pour la plupart d'entre elles extrêmement accessibles.
Quels artistes sont présentés par exemple ?
Alors il y a énormément d'artistes contemporains, c'est toujours difficile de parler d'artistes en particulier, mais tous sont liés par la même discipline.
Je vais moi parler pour vous peut-être, Titus Carmel, Dado, Éric Desmazières bien sûr.
Bissière pour les plus contemporains, également des artistes infiniment plus connus comme Piranèse, comme Dürer, comme Goya, comme Rembrandt, des artistes aussi dont la réputation n'est plus à faire en ce qui concerne le dessin. Nous aurons probablement de très très beaux dessins de Victor Hugo, en tout cas on nous en a promis. L'affiche sera un tout petit peu représentée avec par exemple une très très belle affiche de Cassandre. et d'autres.
Cette affiche, vous pouvez nous la commenter ? Vous êtes une spécialiste de l'affiche, justement.
Oui, alors, c'est une affiche que je présente, qui est une très très rare version de l'affiche extrêmement connue de Cassandre pour le Normandie, dont il y a eu différentes versions en ce qui concerne la lettre. Et celle-ci est une épreuve que je n'avais absolument jamais rencontrée auparavant, est New York, contrairement à ses tirages habituels qui comportent d'autres lettres. Je pense que ça peut vraiment être un grand plaisir de venir au Grand Palais, de découvrir tout ça. Les billets d'entrée sont à des prix extrêmement modiques et je pense que nous souhaiterions infiniment susciter des passions et aussi peut-être des vocations de jeunes artistes qui vont peut-être, après cette démonstration fort convaincante, s'orienter vers cette belle discipline.
Merci Mireille Roman. Donc je rappelle aux auditeurs que le salon se déroule le 27, le 28 et le 29 avril de 11h à 20h au Grand Palais à Paris. Et que vous pourrez y voir des œuvres extrêmement variées et des œuvres également d'Éric Desmazières, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Pour ce numéro du Pont des Arts du mois d'avril 2012, le projecteur dans l'actualité des arts n'est pas mis sur une exposition en particulier, mais sur la sortie d'un DVD de la collection Impressions Fortes, qui s'intitule « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». C'est le 4e volume de la série « Impressions fortes ». C'est réalisé avec le concours de Maxime Préaux, le conservateur général honoraire au département des estampes de la BNF. Et il s'agit évidemment de Francisco Goya, « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Un très très beau DVD. Ce DVD, édité par la société de production Galix, et qui fait partie de la collection Impressions Fortes, ce film consacré à Goya a été réalisé par Bertrand Renaudino et Gérard-Emmanuel Da Silva. La collection Impressions Fortes est une série de documentaires consacrés en fait aux plus grandes œuvres de la gravure, des origines à la période contemporaine. Il y a déjà des DVD qui sont sortis, un qui s'intitule « Le chevalier, la mort et le diable » et évidemment ça traite de Dürer. Il y a « La tentation de Saint-Antoine » aussi pour Callot, un autre sujet, et un très beau DVD également consacré à « La Sainte Face » par Claude Mélan. Le scénario est à chaque fois à peu près le même, vraiment une plongée dans l'œuvre de l'artiste avec des moyens techniques très sophistiqués. Le spectateur entre dans le processus de création et souvent un graveur, un artiste graveur contemporain apporte son regard sur l'œuvre en question. Sur le Pont des Arts vous donne rendez-vous au mois de mai.